Radio Kapi. Oh, Kapi.
L'actualité en RDC, Alaïne, c'est plus de 1400 personnes qui sont mortes au pays des suites de la rougeole en seulement 6 mois. Ces chiffres fournis par Médecins Sans Frontières traduisent l'urgence d'une mobilisation accrue des acteurs. Les enfants déplacés de Mambangu à Beni risquent de ne pas reprendre avec le cours l'année prochaine. Le manque de moyens de leurs parents ne leur permet pas d'acquérir de fournitures scolaires. Notre invité est le docteur Ngereza, médecin physique et encadreur senior aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il va nous parler de la prise en charge des EODM dans cette édition du journal. Comme annoncé au sommaire, près de 1400 personnes sont mortes en République démocratique du Congo des suites de la rougeole dans les derniers 6 mois. L'ONG Médecins Sans Frontières indique que ces décès proviennent d'un échantillon de plus de 108 000 cas suspects enregistrés. Les zones les plus touchées sont le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui à elles seules cumulent plus de 50 000 cas suspects de rougeole selon l'organisation. Ce qui choque, c'est que près de la moitié des décès sont concentrés dans les deux provinces du Kivu. Blaise Ndongala nous donne des précisions.
Cette situation sanitaire intervient alors que l'Est de la RDC fait face à l'épidémie des maladies à virus Ebola. Pour Médecins Sans Frontières, la mobilisation importante autour de cette épidémie ne doit toutefois pas entraîner une diminution de l'attention et des moyens consacrés aux autres urgences sanitaires, notamment la rougeole, les choléras et le paludisme. Dans le cadre de sa réponse à la rougeole, Médecins Sans Frontières indique avoir réalisé 6 interventions dans le Nord et le Sud Kivu. Les plus récentes ont été menées à Walikale, au Nord Kivu et à Chabunda dans les sites Kivu. Selon cette organisation, ces interventions ont permis de traiter plus de 12 050 patients et de vacciner plus de 283 000 enfants. La rougeole n'est pas la seule maladie qui continue de menacer les populations dans les deux Kivu. Selon les données citées par MSF, la RDC avait enregistré plus de 35 464 cas suspects de choléra et plus de 1051 décès. Parmi ces notifications, 14 819 étaient concentrés au Nord Kivu et au Sud Kivu. Médecins Sans Frontières estiment par ailleurs que ces différentes urgences sanitaires doivent continuer à faire l'objet d'une réponse simultanée.
Parlons toujours santé, mais cette fois avec la campagne de vaccination destinée à 3 millions d'enfants au Nord Kivu. Âgés de 0 à 14 ans, ces enfants recevront des vaccins contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole. Selon de sources sanitaires, 15 zones de santé de la ville de Goma et des territoires environnants sont concernées. Lance officiellement lundi à Goma, l'opération durera 5 jours. Une campagne difficile à mener dans le contexte actuel, reconnaissent les autorités locales. Bernardin Nyangui nous donne des détails.
Les parents ainsi que de nombreux cadres de base ont pris part ce lundi à Goma à la cérémonie de lancement officiel. Organisée dans 15 zones de santé, l'opération devrait atteindre plus de 1,8 million d'enfants âgés de 0 à 59 mois contre la poliomyélite et près de 2,9 millions d'enfants de 6 mois à 14 ans contre la rougeole et la rubéole. La campagne se déroulera du 20 au 24 août. Le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination, le Dr Hans Batei, invite les parents à rendre disponibles leurs enfants durant toute la période de la campagne. Il précise que la stratégie retenue est hybride. Certaines vaccinations seront administrées dans les centres de santé, tandis que d'autres seront réalisées lors des activités avancées et des visites porte-à-porte. Les autorités sanitaires rappellent que le Nord Kivu poursuit ses efforts de lutte contre la poliomyélite après la notification récente d'un cas de poliovirus dérivé dans la province voisine du Maniema. Cette campagne vise également à renforcer l'immunité des enfants contre la rougeole et la rubéole, alors que plusieurs zones de la région continuent d'enregistrer des cas de ces maladies.
Merci Bernard Nyangui. Direction le Kasaï central pour parler là aussi de la campagne de vaccination. Contrairement au Nord Kivu, plus de 2 millions d'enfants sont attendus ici. Âgés de 0 à 14 ans, ils recevront le vaccin contre la rougeole et la rubéole. Parallèlement, plus de 2 millions d'autres enfants âgés de 0 à 59 mois seront vaccinés contre la poliomyélite. Le coup d'envoi de la campagne a été donné lundi aussi par le gouverneur de la province en présence des différents partenaires. C'est un reportage signé André Katende Ngalamulume.
Cette campagne de vaccination concerne les 26 zones de santé du Kasaï central. D'après les autorités sanitaires, 34 cas de rougeole et 2 cas de poliomyélite ont déjà été enregistrés dans la province. Ces cas ont été signalés dans les zones de santé de Bilomba et Tchoukoula. Face à cette situation, le gouverneur des provinces, Joseph Moïse Kamboulou, appelle les parents à faire vacciner leurs enfants. Il demande également aux administrateurs des territoires, aux prestataires de santé à s'impliquer pleinement dans la réussite de cette campagne.
Chers membres de la communauté, je vous invite avec insistance à faire vacciner gratuitement nos enfants. À tous les administrateurs des territoires, veillez à ce que tous les enfants concernés soient vaccinés. À vous, prestataires et cadres du secteur de la santé, je vous exhorte à vous impliquer totalement.
La campagne se déroule pendant 5 jours, du 18 au 22 août. L'objectif est de réduire les maladies et les décès évitables tout en renforçant la protection des enfants contre ces maladies dans la province. Kananga, André Katendengala Moulumi, Radio Okapi.
Merci André. On va laisser la vaccination à Lubumbashi. Des experts du secteur de la santé réfléchissent à des méthodes innovantes de prise en charge des épidémies en RDC. C'est dans le cadre de la 5e édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et urgence CARU. Au menu des échanges, urgence vitale, épidémie majeure et technologies innovantes, synergie pour une prise en charge novatrice et résiliente face à la résurgence d'Ebola. Paul Mounanga couvre ses travaux pour nous et nous propose ses reportages.
Plusieurs sujets sont au centre du partage des connaissances et expériences entre les experts dans ce carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences. Il s'agit notamment de la réanimation d'urgence du patient en état de choc critique, Ebola et choc septique, de l'optimisation de la minute d'or en chirurgie d'urgence, de la prise en charge des malades avant qu'ils n'atteignent un centre hospitalier. Il y a aussi les défis logistiques pour la prise en charge des malades. Pour le coordonnateur général du CIARU, cette 5e édition se penche essentiellement sur l'amélioration de la qualité des soins et la réduction du délai de prise en charge d'un malade. Docteur Foreman Mabala.
L'innovation a de véritables valeurs que lorsqu'elle permet d'améliorer la qualité des soins, de réduire les délais de prise en charge, de renforcer la sécurité du patient et de rendre les soins critiques accessibles au plus grand nombre. C'est précisément cette rencontre entre l'expertise humaine, la science, l'organisation des soins et l'innovation que cette 5e édition du CIARU souhaite promouvoir.
Ces assises vont durer 3 jours. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et en Ituri, des cas de résistance communautaire dans la lutte contre Ebola continuent d'être rapportés. Lundi, deux jeunes parmi lesquels de motards s'en sont pris à des véhicules de riposte à Kandoï. Un chauffeur a été blessé et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Selon des sources locales, ces violences seraient liées à 2 cas suspects de la maladie à virus Ebola notifiés dans la zone mais contestés par certains membres de la communauté. Le chef de secteur d'Endo, Israël Omo, précise que les enquêtes se poursuivent afin d'établir les responsabilités. Les précisions, c'est avec vous, Jean-Claude Lokidile.
Ces jeunes motards ont saccagé plusieurs véhicules de la riposte ainsi qu'une structure sanitaire. Le convoi se rendait à Kandoï pour récupérer une femme nourricière et un bébé de 8 mois signalé comme cas suspect par l'équipe d'alerte. Tous deux devaient être acheminés vers Aro Centre pour une meilleure prise en charge médicale. D'après le chef de secteur de Ndo, la mère de nourrisson serait décédée il y a quelques temps à Mongwalou dans un contexte suspecté d'Ebola. Les 2 cas n'ont toutefois pas été confirmés. Le conducteur de l'un des véhicules endommagés a été blessé après avoir été agressé par les manifestants. Plusieurs vitres et portes de la structure sanitaire ont également été endommagées. Ce mardi, un calme relatif était observé à Kandoï. Plusieurs malades ont cependant fui la structure sanitaire lors des violences. Le trafic des mototaxis restait paralysé, perturbant les déplacements de la population. Le chef de secteur estime que certains motards qui se sont tirés responsables des violences évitent désormais de circuler. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Nous allons parler éducation à présent. plusieurs enfants déplacés d'ici des Mambangu courent le risque de ne pas étudier cette année. Nous sommes au Nord Kivu. Ces enfants qui vivent dans la ville de Beni font face à d'énormes difficultés. Leurs parents, durement affectés par les conséquences de la guerre, n'ont pas les moyens de financer leur scolarité. Cette situation accroît la vulnérabilité de ces enfants congolais et menace leur droit à l'éducation. Suivez les récits dans ce reportage de Chantal Kahashi.
Pour cet élève, la rentrée reste incertaine.
Je n'avais pas étudié l'année passée. Parce que j'avais étudié, je serai à 5e, mais le retard, je vais retourner encore en 4e. J'ai encore acheté les uniformes pour aller nous inscrire là en classe.
Comme elle, plusieurs enfants déplacés espèrent reprendre les cours. Mais pour leurs parents, financer leur scolarité reste difficile.
Je ne sais pas comment les inscrire car ils viennent d'arriver de Goma. Je ne suis pas sûre qu'ils vont étudier. Comment les inscrire sans moyen? On ne sait même pas manger. Comment amener la fin à l'école? Aidez-nous avec les fournitures scolaires pour que nos enfants étudient.
Pour Héritier Gassisiro, membre de la société civile de Nyiragongo à Beni, ses familles ont besoin d'un soutien.
Les enfants des militaires et les veuves militaires, malheureusement, qui ont du mal à trouver de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Il est important que les organisations humanitaires et les hommes de bonne volonté jettent un regard de compassion à cette catégorie de personnes.
Ces familles déplacées craignent donc de ne pas pouvoir scolariser leurs enfants faute de moyens. Beni, Chantal Kahashi, Radio Okapi.
Et puis, le ministère de l'Éducation nationale tient à l'assainissement des fichiers, à la sécurisation de la paix des enseignants à travers les pays. C'est dans ce cadre qu'il organise du 17 au 22 août à Kinshasa un atelier de renforcement des capacités des directeurs provinciaux de la DINACOPE, Direction nationale des contrôles et des paix des enseignants. Dans son discours, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale a invité les participants à faire preuve des rigueurs, d'intégrité et des proactivités dans leur gestion quotidienne. Selon Raissa Malou, cette approche permettra d'anticiper, de contrôler et de signaler toute anomalie administrative. La ministre Raissa Malou est dans ce propos recueilli par Blaise Ndongala Mayanda.
Mesdames et messieurs les directeurs provinciaux, votre responsabilité est déterminante. Vous êtes dans vos provinces les premiers garants de la fiabilité des informations transmises à la direction nationale. Vous devez connaître vos effectifs, contrôler les mouvements, vérifier les dossiers et signaler rapidement toute anomalie. Nous ne pouvons plus découvrir les difficultés lorsque l'enseignant se présente à la banque et constate que sa rémunération n'est pas disponible. Notre méthode doit être simple. Anticiper, contrôler, alerter et corriger. La responsabilité de la DINACOPE est donc aussi de fournir une information suffisamment fiable et rapide pour permettre au ministère, au comité de suivi de la paix et aux opérateurs concernés d'intervenir à temps. Mais aucune base de données, aucun logiciel, aucune réforme ne remplacera la qualité des femmes et des hommes qui administrent le système. J'attends donc d'un directeur provincial de la DINACOPE compétence, intégrité, rigueur, impartialité, célérité et sens du service public.
Une très bonne nouvelle, le Bac et Pamba naviguent de nouveau sur la rivière Lomami. C'est après 23 ans d'immobilisation due à des problèmes techniques. Cette reprise du trafic est saluée par la population de la région car sa réhabilitation met fin au recours aux pirogues de fortune et réduit les risques de chavirement. Le gouverneur de la Lomami a lui-même assisté à la cérémonie des relances. Les détails sur cette remise en service avec Esther Dalafina.
23 ans d'attente et enfin le bout du tunnel. Le Bac et Pamba vogue de nouveau sur la rivière Lomami après l'installation d'un nouveau câble et le remplacement de ses pièces défectueuses. Pour les habitants du village de Pamba, situé à 120 km de Kabinda et ceux du village voisin de Pandakaliengiei dans le haut Lomami, la mise en service de cet ouvrage est une bouffée d'oxygène. Réunis en masse lors de la cérémonie d'inauguration, les riverains n'ont pas caché leur soulagement. Jusqu'ici, traverser la rivière relevait du parcours du combattant. Les agriculteurs et pêcheurs locaux devraient utiliser des pirogues artisanales au péril de leur vie. L'arrêt du trafic sur le Bac constituait un frein majeur pour l'économie locale. Faute de moyens de transport adaptés, l'évacuation des récoltes de maïs, de manioc, d'arachides et de haricots ainsi que des produits de la pêche devenait quasi impossible. Grâce au rétablissement de cette traversée rendue possible avec l'appui l'appui d'un député national, les échanges commerciaux vont pouvoir reprendre à plein régime vers les grands centres de consommation comme Cabinda, Gandanjeka et Kabwe. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les États-Unis ont levé les restrictions de sécurité imposées aux navires en provenance du Nigeria après plus d'une décennie, a déclaré mardi le ministre de la Marine et de l'Économie blé, Adegbeyoba Ayetola, une mesure qui devrait réduire le coût d'expédition et renforcer la compétitivité des ports nigérians. Les restrictions connues sous le nom des conditions d'entrée ont été introduites par les gardes-côtes américaines en juin 2014, exigeaient que les navires à destination des États-Unis qui avaient récemment fait escale dans certains ports nigérians se conforment à des mesures de sécurité supplémentaires et subissent un examen renforcé avant d'entrer dans les eaux américaines.
L'invité.
L'œdème est un symptôme qui peut entraîner un important inconfort chez les personnes qui en souffrent, souvent associé dans certaines communautés à des croyances ou à des causes héréditaires. Il est considéré par la médecine comme une manifestation clinique pouvant être prise en charge à condition d'en identifier l'origine. Pour en savoir davantage, le docteur Ngereza, médecin physicien et encadreur senior aux cliniques universitaires de Kinshasa, a accepté de nous dire plus sur cette maladie et il s'entretient avec Jean-Marie Kanaimba.
Docteur Ngereza, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Marie.
Vous êtes médecin physique, encadreur majeur. Pouvez-vous nous expliquer simplement ce que l'œdème et comment se manifeste-t-il chez une personne?
Un œdème, en des termes beaucoup plus simples, c'est une accumulation des liquides de manière anormale dans les tissus. Et ça se traduit par un gonflement.
Quels sont les principaux facteurs ou maladies pouvant provoquer l'apparition d'un œdème? Chez un patient.
Il faut savoir, l'œdème, c'est généralement un trouble circulatoire. Ça peut être dû à plusieurs problèmes. Ça peut être une insuffisance cardiaque. Ça peut aussi être une insuffisance rénale, un déséquilibre hormonal, aussi une hypomobilité. Lorsque la personne ne bouge pas suffisamment, cela peut également entraîner des œdèmes. Chez les femmes enceintes également, ça peut également se manifester par des œdèmes. Ce que nous pouvons voir chez les enfants malnutris, chez les coiffeurs. Et aussi, il présente des œdèmes.
L'œdème est-il transmissible d'une personne à une autre?
Bon, comme je disais, l'œdème n'est pas vraiment une maladie, c'est un symptôme ou un signe qui explique d'autres maladies. Donc, on ne sait pas dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, que l'œdème est transmissible.
Est-ce que l'œdème a un impact psychologique, physique ou sociologique?
Bon, c'est un vécu, un ressenti de chacun. C'est un inconfort. Je pense que tout inconfort peut avoir un impact du point de vue psychologique. À mon humble avis, étant donné qu'il y a un inconfort, la personne ne se sentira plus la même qu'elle a toujours été. Cela peut avoir un impact psychologique, social, oui, parce que ça diminue également sa mobilité. Il ne sait plus, et même du point de vue esthétique, vous voyez, quelqu'un qui a l'habitude de porter ses chaussures fermées ou ses sandales avec des pieds gonflés, vous voyez qu'il ne sait plus porter ce qu'il a l'habitude de porter. Donc ça peut aussi avoir un impact de ce point de vue-là, oui.
En tant que symptôme ou maladie, est-ce qu'il y a de traitements efficaces contre l'œdème?
Oui, comme je le disais, c'est un symptôme. Donc, la prise en charge doit d'abord être étiologique. Il faudrait qu'on puisse savoir cet œdème est dû à quoi. Dès lors qu'on arrive à savoir l'origine de l'œdème, le traitement devient facile. Parmi les mesures, nous conseillons généralement à la personne, surtout pour les gens qui sont hypomobiles, qui ne bougent pas assez, de marcher.
On peut considérer que l'œdème peut être héréditaire.
Tout dépend de la maladie qui cause l'œdème. Si cet œdème est causé par une maladie qui est héréditaire, bon, on peut supposer dans ces cas, ça ne peut pas se transmettre de père à l'enfant. Mais si il y a une maladie dont souffre chaque membre de la famille, ça peut être de l'hypertension, ça peut être du diabète, ça peut être ça, ça peut expliquer. Mais dire que l'œdème en soi soit héréditaire, non.
Comment prévenir l'aggravation de l'œdème?
Déjà, il faudrait noter quelques signes de gravité. Donc, vous avez l'œdème comme un symptôme, gonflement chez certains au niveau des pieds. Mais si cet œdème s'accompagne d'un essoufflement, ça ce sont déjà des signes de gravité, il faudrait nécessairement aller voir un médecin. Si cet œdème s'accompagne de douleurs ce sont au niveau thoracique. C'est également, il faut déjà aller voir un médecin. Si l'œdème se traduit par la douleur au niveau de pression, donc au niveau de la zone qui est émaciée, là également, il faudrait aller voir un médecin.
Pour terminer, quel message de sensibilisation souhaiteriez-vous adresser à l'ensemble de la population congolaise?
De manière préventive, ce qu'il faut savoir, la plupart des gens qui voient les œdèmes apparaître sur leurs pieds ou une partie du corps doivent d'abord examiner en premier lieu. Il doit voir soit les généralistes, et le généraliste, à son niveau, verra vers quel spécialiste envoyer ou référer le malade en fonction des antécédents qu'il aura dépouillé ou encore déniché auprès du patient. Et chez les patients eux-mêmes également, ils doivent toujours avoir la mentalité de bouger. Parce que le mouvement est très important. Il n'y a pas meilleur médicament actuellement que le mouvement. Il faudrait marcher et tout ça, ça améliore la circulation.
Docteur Grisa, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie également.
La plus belle femme du monde n'est donc que ce qu'elle a. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal sur Radio Okapi. Grand merci à Gisèle Siala qui était à la partie technique. Ronéline Thibonera Idi Amin, j'étais à la présentation.